Profond qu'en me penchant pour boire, j'ai vu tous les soleils y venir se mirer. Les yeux d'Elsa Triolet, le talent d'Aragon, un couple pour l'éternité.
Chantal Leroux.
Il y aura la jeunesse d'aimer. On retrouve tout le génie d'Aragon dans le très beau titre de la parenthèse poétique que vous offrez chaque soir sur la scène du Lucernaire à Paris à un public conquis. Ariane Ascaride, Didier Bezaz, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ariane Ascaride, lire, dire, interpréter les poèmes, les textes, les lettres, les mots d'Elsa Triolet et Louis Aragon, c'est nous faire entrer dans l'intimité d'un couple mythique de la littérature du XXe siècle. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous glisser dans la peau de cette femme au caractère bien trempé qu'était Elsa Triolet ?
Alors, au départ, c'est une initiative de Didier, puisque c'est Didier qui m'appelle pour me proposer de faire ce travail-là. Et le truc, Didier ne le savait pas vraiment, mais en fait, j'avais déjà lu tout Elsa Triolet, puisque c'est quelqu'un pour qui j'ai presque comme un sentiment d'amitié, même si je ne l'ai jamais rencontré. Et effectivement, pour moi, c'est un plaisir tous les soirs de pouvoir dire ces mots, faire entendre les mots d'Elsa, mais aussi les mots de Louis Aragon, parce que ce sont quand même deux immenses auteurs. Enfin, Louis Aragon, pour moi, c'est comme Victor Hugo au XIXe siècle, si vous voulez. C'est un immense, immense, immense auteur. Qu'on se le mette bien dans la tête, même si aujourd'hui, on en parle moins, mais ça va revenir, je ne me fais pas de soucis.
Oui, vous avez dit que c'était l'auteur, pour vous, le plus important du XXe siècle.
Oui, c'est vrai. Vraiment, je le pense. Hein. En plus, c'est quelqu'un qui a une... Quand on voit le spectacle, comment il peut jouer sur l'écriture. Il y a des textes qu'on dit avec Didier, même quand Didier me l'a présenté, j'aurais jamais imaginé, s'il m'avait pas dit que c'était Louis Aragon qui l'avait écrit, j'aurais jamais imaginé que c'était lui qui l'avait écrit. Il y a quand même quelque chose de génial au sens pur du terme, quoi.
Didier Bezaz, Il y aura la jeunesse d'aimer est une reprise. Qu'est-ce qui vous avait donné envie, il y a 4 ans, de monter cette lecture-spectacle autour des textes d'Aragon et d'Elsa Triolet ?
Bah, écoutez, à l'origine, c'est Bernard Vasseur, qui a été directeur de la maison du Moulin Saint-Arnoux, la maison où Aragon et Elsa Triolet ont vécu, et qui m'a donné comme ça, enfin fait parvenir, énormément de textes, énormément, il y avait 60 textes. Bon. Et là-dedans, je me suis mis à faire mon propre voyage et à tirer un fil conducteur qui est celui de la rencontre amoureuse. Parce que finalement, le montage des textes suit les étapes d'une rencontre amoureuse. Voilà. Voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Alors ensuite, il y a eu la première version, on a retravaillé la deuxième version, le fait de travailler avec Ariane. Et effectivement, on a créé le spectacle au Lucernaire l'année dernière et on l'a repris parce que l'année dernière, sur 3 semaines, c'était tout le temps complet, quoi.
Et comment vous avez mélangé les textes plus connus et les moins connus ? Parce qu'on reconnaît par exemple Aurélien, Les yeux d'Elsa,
ouais.
Le Conte d'Irène, et puis aussi des extraits de lettres, notamment beaucoup moins connus.
Oui, la lettre d'Aragon à Elsa et la réponse d'Elsa ne sont pas très connues. Ce sont des documents autobiographiques, ça, par contre. Je vous dis, j'ai suivi les étapes d'une rencontre amoureuse, c'est-à-dire les premiers émois, tes yeux sont si profonds. Voilà, et puis ensuite la rencontre, le désir amoureux qui s'installe et qui culmine avec ce poème, alors là très connu, qui s'appelle Le Conte d'Irène, où Aragon à la fois mythifie le sexe féminin et se comporte en anatomiste. C'est-à-dire que sa description est tout à fait exacte.
Poème poétiquement érotique.
Oui, poème érotique, oui, c'est évident. Et à partir de là, ça c'est c'est le pivot du montage de texte. Ensuite, on va vers Qu'est-ce que c'est que vivre à deux? Quelle angoisse, quelle inquiétude ça peut susciter, notamment chez Elsa? On va vers, pas les règlements de compte, mais enfin les moments où on se dit les choses quand même, parce que la vie à deux n'est pas si facile que ça, surtout avec aux côtés d'un grand poète qui est une, comme le dit Elsa, une prima donna.
On va en reparler.
Un jour, pourtant, un jour viendra couleur d'orange, un jour de palmes, un jour de feuillages au front.
Un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche.
Et le plus simplement du monde, il y aura la jeunesse d'aimer, et les yeux des pères venges. Des parfums plus profonds et des aubes plus blanches.
Et le tendre infini dont m'entourent tes bras.
Deux tabourets, deux pupitres, deux faisceaux de lumière. Didier Beuzat, c'est vous qui signez la mise en scène de ce spectacle. Il fallait cette sobriété pour recréer l'intimité du couple sur scène.
Oh oui, oui, c'est quand même la priorité donnée aux mots. Donc pour faire entendre les mots, faut être discret sur l'image, j'allais dire. Mais enfin, c'est quand même un spectacle dans lequel on se détache sur un ciel qui change de couleur, qui amène des humeurs différentes selon les textes qu'on lit. Donc on peut parler de lecture-spectacle, vraiment, je crois.
Alors vous lisez sans lire, vous parlez à voix basse, parfois vous chuchotez. Est-ce que vous avez tâtonné l'un et l'autre pour trouver le bon ton ou est-ce que c'est venu naturellement finalement, Ariane?
Tâtonné, je crois pas en fait, pas tant que ça. Je crois que le micro nous a donné la possibilité de travailler sur extrêmement de douceur et le plaisir de faire comme des musiciens en fait, voyez, de faire résonner les mots, de leur donner la possibilité d'avoir des courbes, je ne sais pas comment dire, mais tâtonner, non, pas du tout. En fait, personnellement, je crois pas.
Non, Didier? Non. Non, le travail avec le micro est quelque chose de très agréable et de très sensible, c'est-à-dire qu'on peut se permettre effectivement des nuances qu'on ne pourrait pas avoir si on travaillait à voix nue. Encore qu'on nous entendrait très bien, puisqu'on est dans une salle de 110
petite,
places.
Ouais.
Donc vraiment, il n'y a pas de problème d'entente, enfin d'audition. Mais le micro nous permet une intimité. Et c'est vrai que parfois, on chuchote. Mmh. Complètement. Bon, voilà, vous voyez. Donc, il y a les variations de la sensualité, etc., sont provoquées par le travail avec le micro.
Alors la complicité entre vous deux est évidente quand on vous voit sur scène. Didier, comment vous avez embarqué Ariane dans cette aventure? Quand vous lui avez fait la proposition, vous ne saviez pas donc qu'elle avait lu tout Elsa Triolet?
Ah non, ça je ne le savais pas, mais je l'ai embarqué très simplement, je lui ai téléphoné. Enfin voilà, et je lui ai dit, bah écoute, voilà le projet, est-ce que ça te tente? Je t'envoie les textes, et puis elle a dit oui.
Mais c'est sur une pièce de théâtre précédente que vous aviez montée, que vous aviez rencontré Ariane?
Ah oui, oui, on a travaillé ensemble sur Dario Fo, notamment.
La maman bohème et Médée.
La maman bohème et Médée, qui est un très bon souvenir. Mmh. Oui.
Ariane, donc tout de suite, vous avez dit oui.
Ça faisait longtemps que je voyais des spectacles de Didier. Et en fait, la seule personne que j'ai appelée quand j'ai eu mon César, c'est Didier Beuzat. J'ai eu le courage, à ce moment-là, de lui dire, écoute, voilà, maintenant, je voudrais te dire un truc, je voudrais travailler avec toi.
Et César puis, pour Marius et Jeannette.
Et puis, ça a pris quelques années parce que un metteur en scène, il a des choses dans sa tête, des choses qu'il veut monter. Et puis, il voulait trouver un truc avec lequel on pouvait bien travailler. Et puis, quelques années plus tard, eh bien, on l'a fait. Et c'est vrai que quand Didier m'a appelé, je sais pas comment vous expliquer, c'est normal, je viens. Et puis, en plus, vous savez, l'autre jour, j'étais sur le plateau, c'est ce que je disais à Didier, j'étais sur le plateau en train de jouer, puis des fois, c'est pas moi qui parle, hein, et d'un coup, je me suis dit, ah, bah, tiens, moi, si j'avais 18 ans et que je vienne voir ce spectacle, en fait, je serais jalouse, parce que je serais jalouse de ne pas pouvoir dire ces mots-là. C'est une chance inespérée que de pouvoir faire entendre. ces auteurs-là.
Et qu'est-ce que vous avez découvert à travers ce spectacle d'Elsa et du couple qu'elle formait avec Louis Aragon?
Je ne sais pas si j'ai découvert vraiment quelque chose, parce que je les connais bien. Mais, ce que je pourrais dire, c'est que presque la dernière lettre d'Elsa, elle est assez géniale, parce que je pense que toutes les femmes qui entendent cette lettre, c'est une lettre universelle. La première fois que je l'ai lue, je l'ai montrée à mon mari, vous voyez, en lui disant « ça ne te dit rien, ça. Ça ne te dit rien, ce qu'elle écrit, Elsa. » Je crois que toutes les femmes, il y a un endroit où toutes les femmes dans cette lettre se reconnaissent. Ça m'a fait beaucoup rire. Et puis Elsa, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'humour aussi, quand même. C'est formidable de ce qu'elle dit aussi sur vivre ensemble à deux tout le temps, alors qu'on n'a pas du tout cette image-là d'Elsa Triolet. Hein, c'était comme une espèce de... C'est-à-dire aussi, c'est comment Aragon la présentait quand même. Hein. Il était quand même assez fortiche pour ça. Il l'a toujours montré comme s'il était en admiration, en pamoison totale. Je disais très bien, il me fait de l'ombre. Et je trouve ça génial, quoi. Donc, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir la faire entendre autrement, quoi. De pouvoir peut-être un peu la faire découvrir et donner envie à des gens de lire les romans d'Elsa Triolet, qui sont des romans absolument sublimes.
Oui, parce qu'il faut rappeler quand même qu'Elsa Triolet a été la première femme à recevoir le prix Goncourt en 1945.
44, pardon.
Et ça, on l'ignore, parce qu'elle était tellement la muse, enfin, présentée comme la muse d'Aragon, que finalement, elle en a pâti un petit peu, non,
de rester... Elle le disait avec beaucoup d'humour, d'ailleurs. Oui, elle disait, sûr. Il me fait de l'ombre.
Oui, oui. Parce qu'il est... Avec l'accent russe, ben oui, de ses origines.
Il me fait de l'ombre. Il est tout le temps en train de dire que je suis géniale, mais au bout du compte, c'était pas... Il a toujours eu un peu ce côté-là, quand même, hein, Louis.
Didier, vous êtes d'accord, hein ?
Ah oui, tout à fait. Oui, je suis d'accord. Effectivement, Elsa est la muse du poète, donc il la mythifie. C'est-à-dire qu'elle est, bon, on s'en rend bien compte dans les textes. Je veux dire, toutes les images poétiques qu'emploie Aragon pour parler d'Elsa sont des images mythiques. Bon, voilà. Et elle, pour préserver sa liberté, elle sculpte leur relation plutôt qu'elle ne la, elle ne la vit pas aveuglément. Elle l'ausculte et elle se rend bien compte qu'il va falloir quand même se battre pour exister à côté du grand bonhomme. Donc elle le lui dit et elle revendique aussi ce que lui n'aborde jamais. Elle revendique aussi une vie simple, se faire cuire un œuf à deux. Ça peut être bien, voilà. Mais lui, il n'a pas le temps, il est débordé. Donc ça, elle le vit mal. Elle le vit comme une menace de destruction de leur couple. Et d'ailleurs, elle le lui dit, on n'a pas beaucoup de temps, on est à moins 5. Et ne me dis pas moins 6,5 parce que c'est la même chose. Voilà.
Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison, ah, c'est toujours toi que l'on blesse, c'est toujours ton miroir brisé, mon pauvre bonheur, ma faiblesse, toi qu'on insulte et qu'on délaisse, dans toute chair martyrisée. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison, la faim, la fatigue et le froid, toutes les misères du monde, c'est par mon amour que j'y crois. En elle je porte ma croix, et de leur nuit ma nuit se fonde. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon, et ne connaître de saison que par la douleur du partir. Aimer à perdre la raison,
aimer à perdre la raison, Jean Ferrat. Vous êtes fan l'un et l'autre de d'Aragon chanté par Ferrat, par Ferré, par Brassens et tant d'autres. Ariane Lascaride.
Ah, pour moi absolument, et d'entendre ça, d'entendre la voix de Jean Ferrat. Vous savez, j'ai été élevée avec ça. Hein. C'est ça qui je pensais là pendant que je l'entendais. Ma mère, qui n'était pas du tout une intellectuelle, connaissait cette chanson par cœur. Et je remercierai jamais assez Jean Ferrat d'avoir fait chanter ma mère Aragon. Vous voyez? Et c'est pour ça que la variété, par moments, c'est vraiment génial. Vraiment génial.
Ça marque des instants de notre vie.
Pour moi, personnellement, c'est vraiment toute la fin de mon enfance, le début de mon adolescence. Ma mère chantait ça dans la cuisine. Et excusez-moi, j'ai rarement entendu une plus belle chanson d'amour que celle-là.
Didier Bezaz, vous aussi, vous avez été bercé par Aragon, chanté par...
Non,
non,
parce que moi, mes parents n'étaient pas du tout portés vers la poésie, d'une part, et surtout vers ce genre de poète qu'était Aragon. Mais je dois à ces chanteurs d'avoir découvert les textes. En fait, ils ont fait de ces textes des tubes populaires. Et ça, c'est extraordinaire, je trouve. Donc moi, j'ai profité de cette espèce de popularisation de textes, et je remarque que leur voix, que ce soit le velouté de la voix de Ferrat, même le velouté de celle de Léo Ferré, sont parfaitement appropriées à la célébration de l'amour, en fait. Voilà.
Et les mots d'Aragon sont éternels, on peut dire ça.
Ah oui.
Ah oui.
Ah oui.
Indémodable.
Ah bah ça, ouais. Vous pourrez chanter ça en 3250, les gens seront toujours par terre. Hein.
Alors il y a également des notes d'humour dans ce spectacle, dans cette lecture spectacle. Avec le texte, ça s'est passé comme au cinéma. Vous pouvez nous raconter, Didier Bezaz?
Ah, vous voulez que je vous fasse un pitch?
Voilà, un pitch.
De l'histoire. Bah, ça s'est passé comme au cinéma. C'est l'histoire de l'irruption de policiers, chez un couple qui s'appelle Robert et Pauline, et qui s'apprête à se mettre à table. Et donc, les flics, les laissent pas dîner, bien évidemment. Ils les interrogent, ils les persécutent, ils fouillent partout, ils mettent le bazar dans tout l'appartement. Pour s'apercevoir au bout d'un moment qu'ils se sont trompés de clients, si j'ose dire. Ils cherchent pas, ils s'appellent, enfin...
Ils cherchent pas la bonne adresse.
Ils sont pas à la bonne adresse, ils sont trompés de numéro de rue. Finalement, bah, ils sont bredouilles et ils repartent, mais de la même manière qu'ils sont venus, sans un mot d'excuse, bien évidemment, de manière aussi tonitruante qu'ils sont entrés.
Et où la pirouette est très très jolie, c'est que en fait on vient les soupçonner de faire quelque chose d'interdit. Ça se passe pendant la guerre, et eux ils disent non, et en fait ils font ce quelque chose,
oui,
mais d'une autre manière.
Oui, oui.
Et cet extrait du roman Servitude et grandeur.
C'est ça, Servitude et grandeur
des Français.
Des Français pendant l'occupation, je crois, ou des Français, tout simplement.
Oui, et ça nous ramène à la guerre. Est-ce qu'au-delà de l'amour, c'est aussi leur engagement qui a soudé Aragon et Elsa Triolet, engagement dans la lutte contre les nazis, contre l'occupation, et engagement aux côtés du Parti communiste dans les années 30, Ariane?
Oui, je pense. En fait, je pense que c'est une chose qui est très importante chez eux. Et d'ailleurs, ce qui est assez formidable, c'est comment deux grands auteurs comme ça, et il faut jamais oublier que Louis Aragon, il a écrit un livre qui s'appelle Les Communistes. Donc, qui est un livre qu'on lit plus aujourd'hui, mais on peut le lire parce que c'est absolument génial à lire. Et je connais pas d'autre auteur qui écrit un livre comme ça. Et que des gens qui se soient engagés comme ils se sont engagés, c'est assez remarquable, historiquement parlant aussi, tout simplement.
Il n'est pas facile de te parler. Tu sembles oublier que nous vivons l'épilogue de notre vie. Qu'ensuite, il n'y aura plus rien à dire. Et que l'index lui-même, d'autres, le liront. Pas nous. Je te reproche de vivre depuis 35 ans comme si tu avais à courir pour éteindre un feu. Et dans ta course, il ne faut surtout pas te déranger, ni te devancer, ni t'emboîter le pas. Il ne faut surtout pas s'aviser de faire quoi que ce soit avec toi. Ensemble, consolons-nous avec ça. Elsa meurt le 16 juin 1970.
Ne ferme pas les yeux. Je suis de ce côté de tes paupières. Je ne puis entrer dans la nuit où vont tes regards sans lumière. C'est où, sans moi ? Sans moi, c'est où ? Tu fais la route de toi-même, sans moi, parti, oubliant tout, oubliant même que je t'aime. Rouvre-moi ces yeux adorés, pour que j'y retrouve ma femme. Rouvre tes yeux démesurés à la mesure de mon âme.
Elsa Triolet et Aragon ont vécu une folle histoire d'amour, mais ce qui est touchant aussi dans votre spectacle, c'est que leur couple n'a pas échappé malgré tout à l'usure du temps. On entend l'agacement d'Elsa, on devine les orages. Ariane Ascaride.
C'est pas toujours facile de vivre avec un génie, hein, quand même, hein, parce qu'il est un peu auto-centré quand même. Faut quand même dire les choses comme elles sont. C'est toujours lui, il a toujours beaucoup de travail, il a toujours beaucoup de choses à faire. Il faut qu'il réfléchisse, il faut qu'il écrive. Et bon, voilà, c'est un peu compliqué. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais je pense pas qu'il y a que Elsa Triolet qui connaît ce genre de soucis.
C'est pour ça qu'on peut se reconnaître aussi. Ouais,
je pense que
dans les mots.
C'est pour ça que je dis ça. Cette lettre-là, c'est une lettre où toutes les filles, quand elles l'entendent, ont un petit sourire en coin, quoi.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Ariane Ascaride, Didier Bezas, il y aura La Jeunesse d'aimer, lecture-spectacle à découvrir au Lucernaire à Paris jusqu'au 24 novembre, avant une tournée en France de janvier à juin 2020. Je vous propose maintenant de retrouver Lucie Bouteloup et sa puce à l'oreille du mercredi.
La puce à l'oreille.
Bonjour Chantal, alors tenez-vous prête, car aujourd'hui, la puce est toute disposée à battre en brèche. Alors aiguisez votre discours et tendez l'oreille, car aujourd'hui c'est Daniel Lacotte qui me donne la réplique pour revenir précisément sur cette locution « battre en brèche ». Avec nous aussi, les CM1 de l'école Boulanger à Paris, des petits prêts à en découdre. Jugez plutôt.
En croyance, c'est trop facile. Et après, à la fin du combat, tu te rends compte que tu t'es fait battre, mais hyper facilement par l'adversaire.
Tu te bats contre quelqu'un et après, t'as comme une épée qui s'appelle la brèche. Et après, elle nous protège.
Battre en brèche, c'est par exemple battre des œufs. Et brèche, ça me fait penser à bref. Tu y vas d'un coup et après, tu t'arrêtes pas.
Bah, à un moment donné, t'es tellement trop fatigué que tu vas battre en retraite.
Tendre un piège parce qu'une brèche, c'est une ouverture. Et quelquefois, tu peux faire des pièges en faisant un trou et après en couvrant.
Bref, ça me fait penser à mèche. Et la mèche, alors, elle serait emmêlée, comme si tu t'étais battu.
Moi, brèche, ça me fait penser à braise. Du coup, je pense qu'ils se battaient dans une arène avec des flammes.
La puce à l'oreille !
À Alors, Daniel Lacote, battre en brèche, difficile pour les enfants, cette expression.
Oui. Alors, on donne tout de suite la réponse. Oui. C'est-à-dire que battre en brèche, c'est attaquer quelque chose ou quelqu'un avec une certaine force, voire une certaine violence. Ça, au sens propre. Et puis après, on aura un sens figuré. Mais battre en brèche, on est violent, mais surtout, on est déterminé, je veux dire, plus que violent. On fait ça avec virulence, malgré tout, avec pugnacité.
Et du tac au tac.
Et du tac au tac. Hein, au point que la personne, quand il s'agit d'une personne, ou quand c'est pour une chose, il y a forcément toujours une personne ou une organisation derrière, d'ailleurs, elle ne peut pas s'y opposer. Quoi. C'est vraiment quelque chose d'assez fort.
Sauf que battre en brèche aujourd'hui a plutôt le sens de rétorquer les arguments.
Voilà, c'est ça.
Réfuter une argumentation.
Réfuter une argumentation. Mais à l'origine, la brèche, c'est une ouverture. Une ouverture dans une haie d'un jardin, mais aussi dans un mur.
L'ouverture qui permet de s'introduire à l'intérieur.
Voilà. Et à l'origine, dans une fortification, par exemple. Hein, dans un mur qui était fait pour protéger quelque chose. Et le verbe battre, bien sûr, ça veut dire battre, mais ça veut surtout vraiment dire se battre. Ça veut dire y aller à coups répétés. C'est une action.
C'est battre au sens militaire.
Voilà, c'est une action militaire qui est une action qui se fait avec de l'artillerie, avec des coups de canon, etc.
C'est combattre, en fait.
Et une fois qu'on a fait un trou...
On s'introduit dans la zone qui n'est pas assez protégée. Donc.
Voilà, c'est ça.
Alors, cette expression, elle date de quand, battre en brèche?
C'est autour du haut Moyen-Âge. Enfin, elle a vraiment été utilisée vers le 18e.
Dans son sens militaire.
Dans
Mais
son
alors,
sens
le
militaire.
Sens figuré,
dans
lui,
le
il
sens
arrive
congrès,
un peu plus tard.
Il arrive au 19e.
Donc, le sens figuré, le sens qui est utilisé aujourd'hui,
oui.
qui est donc cette réfutation
d'argumentation.
Quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'utilisation de cette expression?
Par exemple, une loi qui va être promulguée, les opposants vont battre en brèche, ils vont apporter tous les arguments les plus virulents, mais en restant malgré tout d'une certaine façon courtois. C'est ça que je veux dire. Il y a violence, mais c'est une violence plutôt intellectuelle, dans le sens figuré, bientôt. Plutôt, hein. C'est une violence intellectuelle et on apporte des positions, on apporte des arguments, on se bat contre des idées ou contre
des arguments. On démonte le discours de son interlocuteur.
Voilà, exactement
en fait.
Ça.
Alors, on retrouve aussi le mot brèche dans l'expression être sur la brèche. Mais cette fois-ci, ça veut dire qu'on a une activité très soutenue. On est en plein combat. On est à l'endroit même où le combat se situe. Donc,
c'est ça. Et
on revient, est sous le feu, quoi.
On est sous le feu. On revient à l'expression précédente
du
Moyen-Âge, militaire. Parce que, encore une fois, hein, faire une brèche dans une fortification, c'était loin d'être facile. Donc, on battait en brèche et il y avait les gens qui étaient sur la brèche. Pour battre en brèche.
Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme synonyme à battre en brèche? Il n'y a pas vraiment
d'équivalent. Il
n'y
a pas beaucoup d'équivalent, non.
On ébranle le discours, on conteste.
Oui, c'est voilà.
Il n'y a pas d'expression toute faite.
Il n'y a pas d'expression toute faite. Les équivalents sont un peu faibles, finalement. Hein.
Et d'ailleurs, l'expression, elle existe telle qu'elle dans beaucoup de pays.
Alors, allons-y.
En Allemagne, en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, on bat une brèche ou on bat en brèche. Donc, très proche. Plus violent aux Pays-Bas toujours, on hache dans la casserole. C'est quand même beaucoup plus intéressant. On hache menu l'ennemi.
Oui, c'est ça. Ça.
Et alors en Roumanie, attention, on lui saute sur le larynx.
Oh là !
Ah oui. Donc là, c'est quand même assez radical.
Oui, sauter à la gorge.
Sauter à la gorge, absolument.
Ouais, sauter à la gorge.
Oui, sauter à la gorge, ça pourrait être un bon synonyme.
Oui, sauter à la gorge, c'est un bon synonyme, finalement. Bravo les Roumains, bravo.
Eh bien, Daniel Lacote, loin de moi l'idée de vous sauter sur le larynx ou de vous hacher dans la casserole. Je préfère vous garder tout entier pour vous inviter à sauticoter dans la buse à nouveau. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore, je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent se procurer votre ouvrage 100% zéro faute, édité chez First. N'oubliez pas également d'aller retrouver la puce sur le site de RFI Savoir avec un S. À très bientôt, Daniel Lacote.
Merci, Lucie.
De vive voix touche à sa fin. Merci encore, Ariane Ascaride et Didier Bezas, de nous avoir rendu visite et de nous donner envie de relire Aragon et Elsa Triolet. Merci à Ludivine Amado qui a réalisé cette émission et à Véronique Durand et Marion Lestel qui m'ont aidé à la préparer. À demain et portez-vous bien.